savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission spéciale consacrée cette semaine à la réouverture enfin des salles de cinéma en France après plus de 3 mois de fermeture. Les spectateurs auront-ils repris le chemin des grands écrans après avoir peut-être pris l'habitude de déguster films et séries sur leur écran d'ordinateur ou de télévision? Auront-ils de nouveau envie de s'enfermer dans une salle obscure alors que la météo est cette semaine particulièrement estivale en France? Quels films sont à l'affiche? Qui joue le jeu ou pas encore, de la reprise? Autant de questions que nous allons poser à nos invités qui sont au rendez-vous par téléphone. Martin Provost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de La Bonne Épouse, une comédie féministe sortie juste avant le confinement et qui ressort heureusement en salle en France. Alexandre Malegui, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à la tête de Memento Film Distribution, qui s'occupe justement de la ressortie de La Bonne Épouse. À vos côtés virtuels, bien plus au sud, on accueille William Benedetto. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Marseille, puisque vous dirigez la salle L'Alhambra. On va voir aussi avec vous comment on rouvre dans ces conditions une salle de cinéma et avec quelle programmation. Et puis dans une vingtaine de minutes, nous joindrons Jérôme Paillard, le directeur du marché du film de Cannes, car si le plus grand festival du monde a dû, la mort dans l'âme, annuler sa tenue, son marché, lui, a ouvert lundi en mode virtuel. Mais avant cela, on retourne au cinéma, c'était lundi dernier, et Sébastien Gédor s'est rendu à la toute première séance du MK2 Bibliothèque dans le 13e arrondissement de Paris.
Il est à peine 9h ce lundi matin sur le parvis du MK2 Bibliothèque. La première séance est à 9h40, les portes du multiplex ne sont pas encore ouvertes, mais Clémence et Annie ont déjà en main l'une son ticket imprimé à la maison, l'autre sa carte d'abonnement cinéma illimité.
Alors ce matin, je vais voir Une sirène à Paris, qui est le dernier film de Mathias Malzieu, adapté de son dernier roman. Sublime, c'est le livre que j'ai lu pendant le confinement d'ailleurs, et du coup je m'étais dit qu'à la réouverture j'allais en profiter pour aller voir le film, donc je suis ravie d'y aller ce matin.
Je vais voir La Bonne Épouse avec Juliette Binoche. On a l'impression qu'on revient vraiment à une vie normale.
Bonjour, c'est la salle 5.
Pendant la séance, le port du masque n'est pas obligatoire. Un siège doit rester libre entre chaque groupe de spectateurs. Quant à la programmation, entre les reprises, les nouveaux films et les sorties décalées, Nathanaël Karmitz, directeur général de MK2, ne croit ni au grand vide, ni au trop-plein.
Ça va être un été très divers en termes de cinéma, très excitant en termes pour les cinéphiles, puisqu'il y aura effectivement moins de grands blockbusters américains, même s'il y en aura. Il y aura Mulan, il y aura Tenet de Christopher Nolan qui arrive. Donc il y a des grands films qui arrivent, mais cet été sera moins dominé par ces blockbusters. Et du coup, il y aura beaucoup plus de choix en termes de cinématographie française ou de cinématographie du monde. Vraiment des très beaux films, très divers toutes les semaines, donc il y en aura pour tous les goûts.
Ça va, mon chéri ?
Ouais.
Pour la réouverture des cinémas, en écho aux mobilisations antiracistes, MK2 propose un cycle spécial Black Films Matter, un choix éditorial pour se démarquer du flot des plateformes de vidéos à la demande qui ont gagné énormément d'adeptes pendant le confinement. Pour Bertrand Roger, directeur de la programmation de MK2, les deux expériences ne sont pas comparables.
Il y a un moment donné, il faut que la salle s'éteigne. Or, moi-même, dans ma pratique de la vidéo à la demande, je vois bien que je peux regarder sur mon ordinateur, sur ma télévision, la lumière allumée, mettre en pause, aller boire un verre, revenir, discuter, répondre au téléphone. Tout ça ne nous semble pas la façon la plus adéquate pour découvrir des grands films ou tout simplement le cinéma. Voilà.
C'est toi la question.
Dès la semaine prochaine, les cinémas français devraient retrouver un rythme de croisière de 10 à 15 sorties par semaine.
On Voilà, c'était un reportage de Sébastien Gédor à Paris, au MK2 Bibliothèque. Alors, est-ce qu'il s'est passé à peu près la même chose chez vous, William Benedetto, à l'Alhambra, à Marseille? Voilà, de l'attente, les spectateurs étaient au rendez-vous?
Oui, les spectateurs étaient au rendez-vous, même si ça prend un peu de temps pour redémarrer, surtout sur les séances de la journée, en tout cas chez nous. On a eu une belle séance hier soir avec un film dont on a sur la sortie qui s'appelle L'ombre de Staline, où j'ai pu reprendre mes micros, faire une présentation. J'avais invité une journaliste irlandaise qui habite à Marseille pour faire écho à ce film qui raconte l'histoire d'un journaliste gallois en URSS dans les années 30. Et c'était assez émouvant. Et dans ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage, ça m'a aussi, ça a soulevé quelques émotions qui sont le fait que la salle de cinéma, c'est le lieu du vivant, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu où vraiment les émotions peuvent se déployer et se partager.
Et vous aviez fait le choix même, je crois, d'ouvrir dès minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, pour faire une petite une fête.
Oui, ben, y a plusieurs salles qui ont eu la même idée. Nous, on a eu envie de le faire parce que voilà, pour moi, c'était important de marquer le coup et de signaler à tout le monde que voilà, ça y est, on était réouvert et qu'on le faisait aux premières heures. Et effectivement, on l'a fait. On a fait en forme de clin d'œil puisqu'on a choisi de le faire avec le film Un fauteuil pour deux, film des années 80 avec Eddie Murphy, pour faire un clin d'œil à la situation qui lundi soir était sous la forme de un fauteuil sur deux, même si depuis on sait les choses ont un peu évolué et on va pas être obligé de faire 50% de la jauge, mais d'organiser la venue et l'accueil des spectateurs avec un fauteuil d'écart entre chacun. Donc voilà, c'était l'envie de manifester un peu notre joie et notre bonheur que de réouvrir notre salle de cinéma.
Alors votre salle, elle est située à l'Estac, c'est ça, qui est un quartier populaire de Marseille, comme on peut le dire comme ça?
Oui, elle est située à l'Estac. L'Estac, pour les cinéphiles, c'est le territoire des films de Robert Guédiguian. Et ça oui. Permet de situer l'endroit où se situe la salle. Je suis quelque part dans un film de Robert Guédiguian. C'est d'ailleurs la salle où il venait quand il était tout petit et avec qui nous avons beaucoup de connexions et de relations. C'est une salle qu'il aime beaucoup. Quand il vient faire des avant-premières à l'Alhambra, il dit « Bienvenue dans mon cinéma ». C'est le cinéma de quartier qui a réouvert ses portes il y a 30 ans avec un fort soutien de la ville de Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France, très très étendue. Donc, on est dans un quartier excentré de la ville, dans les quartiers nord. Et voilà, et on essaie depuis cet endroit, depuis ce magnifique cinéma, de faire exister la diversité dans sa force, dans sa puissance, en travaillant aussi beaucoup avec les scolaires, etc., etc. Le cinéma est un formidable outil. Le cinéma est un art totalement en phase avec son époque. La Bonne Épouse est un film qu'on va diffuser en continuation à partir de mi-juillet. On avait fait une avant-première pendant le festival Télérama avec une salle pleine. Et c'est vrai que ces moments-là sont des moments qui marquent et qui construisent des souvenirs importants pour les spectateurs.
Alors justement, la Bonne Épouse, on l'entendait dans le reportage de Sébastien Gédor, hein, une des spectatrices de la première séance à Paris qui allait voir ce film. Martin Provost, j'imagine que ça vous fait plaisir d'entendre que, eh bien voilà, les spectateurs n'ont pas oublié, enfin avaient peut-être pendant 3 mois rongé leurs freins, voulaient voir votre film qui était donc sorti en salle le 11 mars.
Oui, il est sorti le 11 mars, ça avait très bien démarré, c'est toujours énormément de travail, un film, donc je partage les propos qui ont été tenus tout à l'heure. Pour moi, un film, c'est avant tout dans une salle de cinéma. Je suis un enfant du cinéma, je suis allé très jeune, je me souviens du Cosmos, qui est devenu l'Arlequin, où j'ai représenté le film hier, où j'ai vu tous les films de Tarkovsky, Jean-Andréï Roublet, enfin voilà, c'est des films que je ne peux pas imaginer voir à la télévision ou sur un écran d'ordinateur, donc c'est quand même très 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 important que cette crise nous ramène au cinéma. C'est un peu l'écologie fondamentale face à tout ce qui se passe autour de nous, donc La Bonne Épouse, hier, je me suis assis dans la salle et je l'ai regardé avec Séverine, avec qui j'ai écrit le scénario, avec le public, et j'étais très ému de revoir le film 3 mois après. Je l'avais un peu, non pas oublié, mais digéré, je dirais, et de sentir le public, de sentir, oui, tous ces gens qui sont là pour une seule et même chose, tourner vers la lumière, pour moi, ça a du sens, oui, ça a un sens très important.
Et vous, Alexandre Malégui, vous êtes retourné au cinéma le jour de la réouverture ?
Vous savez, il y a un petit rituel parmi les distributeurs de films, c'est d'assister à la première séance nationale qui a lieu à UGC Léal dans le centre de Paris à 9h du matin. Donc tous les distributeurs de films qui sortent cette semaine-là se retrouvent et voilà, on compte les spectateurs, on prend le café ensemble et donc voilà, on était là avec nos amis, nos confrères distributeurs à partager ce moment en fait très important dans la vie d'un film, c'est-à-dire la toute première séance. Donc voilà, c'était mon expérience hier matin. Et la bonne épouse, dès 9h du matin, affichait de très beaux scores. Et ça s'est poursuivi toute la journée. Les Français étaient heureux, je pense, de retrouver le cinéma pour vivre collectivement des expériences et des émotions, de rire ensemble. Voilà, je crois que, comme le disait William, c'est quelque chose de fondamental, quoi, de pouvoir partager ces émotions avec du public et pas regarder seul chez soi sur son canapé un film, quoi. C'est pas du tout la même expérience et c'est ce pourquoi c'est notre combat au quotidien, essayer de diffuser le plus largement possible cette envie auprès du grand public.
Alors parlons justement de La Bonne Épouse qui fait partie des films, hein, locomotive de cette réouverture des salles de cinéma. Un film avec Juliette Binoche, Noémie Lvovsky et Yolande Moreau, entre autres.
Mesdemoiselles, un peu de silence s'il vous plaît.
Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur.
Arrête !
Robert ! Il est tout ! Tapez-lui dans le dos !
24 ans de vie commune.
C'est quoi ça?
C'est des legs d'huissier.
Je peux entrer?
Nous sommes ruinés.
Passez la seconde. Oh, la seconde.
Femme au volant, gare au tournant.
Tu vas pas t'y mettre, toi aussi.
Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école?
Si nous ouvrions un nouveau compte, à votre nom.
À vous dire que j'aurai un carnet de chèques... À mon nom.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères.
Je veux te revoir.
Non ! Afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaises pensées chassées.
Ma mère ?
Eh bien, mon père qui avait monté à Paris rejoindre les féministes.
Les quoi ?
Les féministes. C'est qui ?
Les femmes qui veulent être les égales des hommes.
Oh, vous faites de nous des boniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre.
Les mains en l'air, on se tire !
Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi.
Et si ça peut te rassurer, sache que
je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine.
Tu sais faire la cuisine, toi ?
Martin Provost, La Bonne Épouse, c'est l'histoire de plusieurs émancipations, hein, puisque l'intrigue se situe dans une école d'art ménager en 1968. Et non seulement les jeunes filles qui y sont pensionnaires, mais également les enseignantes vont accepter de laisser parler leur désir, leur corps, de se libérer de l'emprise du patriarcat. Alors dit comme ça, ça peut faire très sérieux, mais en fait c'est vraiment sous la forme d'une comédie très enlevée.
Oui, c'est ce que je voulais... Quand j'ai entendu parler pour la première fois des écoles ménagères, c'était dans le Cotentin, c'est une amie comme ça qui m'en a parlé, et au mot école ménagère, j'ai eu une espèce de déclic dans le cerveau, et quand elle m'a raconté comment elle avait été obligée de tuer un lapin en direct pour passer le concours de sortie, j'ai vu Yolande. Bon, j'avais fait déjà 2 films avec Yolande.
Yolande Moreau,
c'est une amie, et j'ai vu Yolande. Et le ton du film était déjà là. Et quand on a fait après ça toutes les recherches, tous les petits films qu'il y a à l'INA, les quelques livres qui existent sur les arts ménagers, tout le monde se souvient du guide des arts ménagers qui était dans le tiroir de la cuisine. Moi, j'avais ça chez ma mère. C'est infiniment drôle, c'est très tragique et infiniment drôle. Et donc, j'ai vraiment choisi de faire un film sur ce ton-là, avec cette gaieté, cette joie de vivre-là.
Et ce film, vous l'avez écrit du coup au moment du mouvement MeToo ? De libération.
Non, on l'a écrit avant, donc
avant.
C'est troublant, comme
ah
quoi
oui.
Nous avons bien une fonction, nous, les auteurs, c'est de capter des choses qui sont là dans l'inconscient collectif et qui arrivent, qui sont quelquefois prémonitoires. Et c'est vrai que quand on a commencé à écrire le scénario avec Séverine Verba, l'affaire MeToo a explosé, donc c'était pas du tout prémédité.
Alors le film est La Bonne Épouse est sorti en salle le 11 mars. Le 14, les salles de cinéma fermaient. Alexandre Malégui, vous distribuez le film donc chez Memento Film Distribution. J'imagine que ce fut un coup dur, d'autant plus dur que la trajectoire du film semblait excellente.
Ça a vraiment été un véritable coup de massue. Le film avait débarré sur les chapeaux de roue. On avait fait en 4 jours près de 200 000 entrées, ce qui est énorme pour un film indépendant. On a eu un retour formidable de la presse, des premiers publics lors des avant-premières qui se sont étalés sur les mois de janvier, février et mars. Et voilà, donc tout s'arrête d'un seul coup alors que tous les astres sont alignés et qu'on pouvait espérer un très gros succès populaire. Donc
un gros succès, c'est quoi? C'est 1 million d'entrées? C'est plus?
Ah oui, on pouvait aller bien au-delà d'un million d'entrées. Quand on fait 200 000 entrées en 4 jours, on peut imaginer que sur toute la carrière, on pouvait atteindre même les 2 millions d'entrées. Donc ça aurait été notre plus gros succès, le plus gros succès de Martin Provost, le plus gros succès de Gilles Binoche. On a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Mais bon, avec toujours l'espoir que ce succès peut renaître à la réouverture. Et donc, on n'a pas perdu justement cet espoir. Et on s'est battu pour faire revivre le film dans la tête des spectateurs, pour refaire de la promotion avec les acteurs, avec Martin, bien sûr, qui s'est remis sur les routes à présenter le film. Et on a réorganisé une campagne publicitaire avec une bonne épouse enfin de retour. Et le film est ressorti dans une combinaison encore plus large que la première fois, puisqu'on a cette fois-ci plus de 900 salles qui diffusent le film. Je crois qu'on va même atteindre les 1000 salles mercredi, puisqu'il y a des salles qui ont réouvert lundi, mais d'autres qui ne réouvrent que mercredi. Et donc mercredi, on sera sur près de 1000 salles. Donc c'est une aventure assez exceptionnelle qui se poursuit. Le film a très très bien redémarré hier. Il faisait plus de 20 000 entrées sur la journée, alors que lundi est traditionnellement la journée la plus faible de la semaine, donc on peut espérer des chiffres encore plus importants dans les jours à venir, et peut-être qu'on arrivera finalement sur la durée, sur l'été, à récupérer toutes les entrées qu'on a perdues en mars. C'est tout ce qu'on souhaite.
Est-ce qu'il y avait la possibilité, il y a eu un décret du gouvernement, il y avait la possibilité de sortir le film en vidéo à la demande. Vous avez fait le choix de le conserver pour la réouverture des salles. À l'époque, quand vous avez fait ce choix-là, on ne savait pas du tout quand les salles rouvriraient. C'était votre choix, Alexandre Malégui, j'imagine évidemment celui de Martin Provost aussi.
C'était un vrai pari. On s'est dit, le film, comme on le disait, c'était un film de cinéma. On avait envie que ce film soit vu avec un public, que le public rie au film et se laisse emporter par une notion collective. Et donc on a fait le pari de la salle. On a refusé toutes les propositions qui nous ont été faites en VOD ou même en SVOD pour garder la primeur à la salle et pouvoir faire en sorte que le public découvre en premier le film avec un public dans une salle de cinéma. Je crois qu'aujourd'hui le pari est gagné puisque le film est bien parti pour retrouver en tout cas une partie importante de ses spectateurs. Donc on a bien fait d'attendre et de ne pas céder aux sirènes de la VOD.
Alors dans la vie d'un réalisateur, évidemment, cette situation est totalement... À notre connaissance, ça ne s'est jamais vraiment produit dans l'histoire. Martin Provost, est-ce que, du coup, pour vous, comment vous avez vécu cette ressortie? C'est comme une deuxième naissance. Est-ce qu'il y a la même excitation et ou la même angoisse de savoir si les spectateurs vont être au rendez-vous?
Écoutez, je vais vous surprendre, mais j'ai pas du tout été angoissé. Parce que la conviction d'Alexandre, de Marie-Christine Damiens, notre attachée de presse, de mes producteurs, François Croze, Denis Pinot-Valenciennes, était telle que je me suis senti totalement porté. Je n'ai absolument pas eu de doute. Ça paraît étrange parce que c'est quand même le métier que je fais quand même plein de doutes. Mais là, je n'en ai pas eu. Donc, je ne sais pas pourquoi.
Vous avez vu peut-être aussi, oui. Puis vous avez vu l'accueil du film quand même déjà lorsque vous avez fait la tournée en mars.
Oui, la presse était très enthousiaste, le public aimait le film, il y avait quelque chose qui se passait autour de ce film. Maintenant, je me dis peut-être que le Covid, justement tout ce qui s'est passé, va donner encore plus de force à cette histoire et à ce film. Et je ne dis pas que c'est tant mieux, mais parce qu'évidemment il s'est passé quelque chose de terrible. Mais en même temps, si ça peut redonner le goût du cinéma au public, c'est tant mieux. Tant mieux qu'on en ait un peu marre des ordinateurs et des écrans de télévision.
William Benedetto, vous disiez que vous alliez programmer aussi la Bonne Épouse à l'Alhambra, donc votre salle à Marseille. C'est un film que vous estimez donc de nature à attirer un public divers dans votre salle?
Oui, et puis surtout, pour moi, ça s'inscrit dans ce que les salles de cinéma art et essai doivent faire, c'est-à-dire proposer une diversité de propositions à la fois esthétiques et d'origine d'endroits du monde divers. Et voilà, La Bonne Épouse, c'est un film, il y a une esthétique, il y a une forme, il y a un propos. J'avais envie aussi de rebondir là-dessus, parce que la question des femmes, des rapports femmes-hommes, de la dynamique du collectif 50-50 me semble être aujourd'hui une vraie question, et c'est important d'avoir des films qui sont sur un ton, sur le registre de la comédie, ou même de la comédie musicale, qui viennent aussi sur ces terrains-là. Il faut qu'on aborde ces questions-là de toutes les façons possibles et d'éviter trop les discours et les incantations, mais de le faire à travers des expériences qu'on fait vivre. Ce film propose une expérience sur un ton léger et comique, et je pense que c'est très important que ça existe dans les propositions de cinéma qu'on peut faire. Il ne faut pas oublier que l'art et essai parfois apparaît comme étant un cinéma un peu sérieux, j'ai envie de dire, abordant des sujets graves, et ce n'est pas un problème, mais c'est important que le cinéma art et essai reflète quand même aussi différentes esthétiques, différentes propositions, différentes expériences possibles. Donc pour moi, ça s'inscrit totalement dans une programmation qui va faire exister, à côté de La Bonne Épouse, Un Fils, qui est un film tunisien plus grave.
Sorti aussi le 11 mars.
Sorti aussi le 11 mars, un film béni qu'on va reprendre aussi en continuation, un film allemand qui est un film très fort mais très dur. On va reprogrammer I Am Not Your Negro avec une séance spéciale.
Donc le documentaire de Raoul Peck.
Do the Right Thing de Spike Lee, mais aussi Les Parfums qui est sorti hier. Les salles à réessayer, pour moi, ce sont les salles de la diversité. Elles sont là pour faire exister le cinéma dans toutes ses différences. C'est aussi les salles qui montrent des films du patrimoine. Et pour moi, c'est important de défendre cette grande vision du cinéma.
Alors, cette fermeture forcée de 3 mois, comment ça s'est traduit financièrement pour votre salle, William Benedetto? En chiffres globaux, la Fédération nationale des cinémas français évalue la perte de chiffre d'affaires à 400 millions d'euros, 60 millions d'entrées perdues. C'est colossal.
Ah ben oui, c'est colossal. C'est là qu'on voit aussi à quel point les salles de cinéma, du point de vue économique, jouent un rôle très important dans les relations que nous avons avec les distributeurs, à la fois quand les films sortent en salle, mais aussi sur le terrain de l'éducation au cinéma. C'est un peu un terrain sur lequel nous, ici, on travaille beaucoup. Beaucoup de distributeurs s'inscrivent là-dedans, et ça permet aux films d'avoir des durées de vie beaucoup plus longues que simplement le moment où ils sortent. Donc cette économie-là, elle apparaît comme hyper importante. Pour une salle comme l'Alhambra, moi j'ai la chance d'être dans un lieu qui appartient à la ville de Marseille, d'être subventionné par la ville de Marseille. Donc quelque part, je ne fais pas partie des salles qui ont été les plus en difficulté, parce qu'on a pu s'organiser et qu'on a toujours eu le soutien de nos tutelles. Donc quelque part, j'ai envie de dire, je crois que par contre, on est tous logés à la même enseigne maintenant que les choses redémarrent, que l'exploitation cinématographique redémarre. C'est un peu la question de comment ça va se passer, et est-ce qu'on va pouvoir retrouver le plus rapidement possible les chiffres qui permettent d'être en équilibre. Ça, c'est la question, je crois, qui anime l'ensemble des exploitants de France aujourd'hui, et sur laquelle on n'a pas de réponse, même si moi, personnellement, je suis plutôt optimiste. Je pense que les Français sont attachés à leur salle de cinéma. 80% du public d'une salle de cinéma est un public fidèle, est un public qui aime aller dans cette salle de cinéma-là. On a la chance d'être dans un pays où il y a une grande diversité de salles, donc les gens qui préfèrent aller dans les multiplex, ils vont dans les multiplex. Les gens qui préfèrent venir chez moi, ils viennent à l'Alhambra, une salle mono-écran à dimension humaine. Et cette diversité aussi de type d'exploitation est, je crois, de nature à permettre au cinéma de retrouver toute sa place dans la vie des Français. C'était assez émouvant dans le reportage sur l'ouverture du MK2 d'entendre une des spectatrices quasiment dire venir au cinéma, d'un coup, ça veut dire qu'on revit. Je crois que le cinéma, ça peut représenter ça. Enfin, moi, je j'y crois beaucoup. Je crois vraiment en la puissance de cet art, en la puissance des émotions que les gens viennent retrouver là. Donc moi, je suis assez optimiste. La seule question, c'est à quel moment on va retrouver le même niveau, à quel moment on va pouvoir être dans des conditions sanitaires normales. Là aussi, je crois que les choses vont évoluer assez vite, et qu'on va avoir un automne, un été déjà cinéma qui va se mettre à vraiment bien fonctionner, et une rentrée qui va se faire dans la lancée.
Ah oui, on l'espère tous. Et pour vous, Alexandre Malégui, est-ce que ce confinement a eu un impact sur l'activité de votre société Memento Film Distribution, outre le report forcé de la sortie de La Bonne Épouse?
Alors bien sûr, pour Memento, c'était un choc vraiment important. La Bonne Épouse étant le film le plus important de l'année pour nous, donc c'était vraiment un timing assez dramatique. Et au-delà de ça, on avait des sorties également prévues en avril, en mai, qu'on a dû reporter. Donc c'est aussi des pertes financières, puisque c'est des dépenses qui étaient engagées et qu'on va devoir réengager. Idem sur La Bonne Épouse, hein, on avait engagé toute une campagne publicitaire qu'on a dû réengager là pour la ressortie le 22 juin, donc c'est des pertes importantes. Et puis au-delà de ça, c'est aussi malheureusement l'annulation du Festival de Cannes, hein, qui pour nous, distributeurs indépendants, est le moment phare de l'année où on lance en fait nos différents films des 12 prochains mois. Et c'est grâce au festival qu'on peut faire émerger des films de cinématographie peu diffusée, de nouveaux réalisateurs, de nouveaux talents. Et c'est vrai que ce festival va nous manquer, surtout les 12 mois à venir, quoi. Donc c'est tombé pour Memento, en tout cas, au pire des moments, c'est-à-dire au moment de la sortie de La Bonne Épouse et du Festival de Cannes. Ça pouvait pas tomber plus mal. Donc oui, les conséquences sont assez dramatiques, mais voilà, on espère, comme sur La Bonne Épouse, rebondir. Et alors, le Festival de Cannes ne s'est pas tenu physiquement, mais il y a cette envie de Thierry Frémaux de quand même accompagner les films qui auraient dû être au festival.
Avec un label, oui.
Avec un label, tout à fait. Enfin, un label sélection officielle Cannes 2020. On avait un film français qui aurait dû être sélectionné à Cannes, qui est sélectionné dans le cadre de ce label. Et ça s'appelle Un Triomphe. C'est un feel-good movie avec Kad Merad dans le rôle principal. Et on sortira le film le 28 octobre. Et on espère que justement ce label va nous aider à promouvoir mieux le film auprès des journalistes dans un premier temps, puis après du grand public. Voilà, donc on essaie comme ça de pallier à l'absence du festival.
Et est-ce que vous attendez des aides ? Est-ce qu'il y a une attente autour d'une aide spécifique de l'État ? Les
Alors, on a comme toutes les sociétés, on bénéficie du chômage partiel sur ces 3 mois de fermeture. Ça, c'est vraiment très important. Effectivement, ça nous a permis de limiter la casse, si je peux dire. Et puis des aides aussi du CNC pour motiver les producteurs et distributeurs à dater des films, à programmer des films sur la période estivale. Le CNC majore les aides dont bénéficient les producteurs et les distributeurs sur les sorties. Donc le montant traditionnel est majoré sur la période juin, juillet, août.
Oui, c'est ça, parce que pour soutenir les salles de cinéma, encore faut-il qu'il y ait des films, effectivement. Donc c'est un peu le...
Donc l'idée du CNC, voilà, c'est de donner une petite incitation aux producteurs et distributeurs qui prendraient le risque de dater les films sur la période. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin encore il y a 2 semaines, 3 semaines, on ne savait pas comment le cinéma allait redémarrer. Est-ce que le public sera là, ou au contraire un peu timide du fait de l'angoisse du virus? Mais je crois qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de Français, l'épidémie est un peu passée. Et voilà, je pense qu'on vient très tranquillement maintenant en salle de cinéma, sachant qu'en plus il y a ce port du masque recommandé dans le hall, il y a ce siège à gauche et à droite de chaque groupe social. Donc je pense que voilà, on se sent protégé et il n'y a plus de crainte vraiment d'aller voir un film en salle.
Il n'y a pas de risque de pénurie de films cet été. On entendait dans le reportage Nathanaël Kermit, il parlait les blockbusters américains seront peut-être pas au rendez-vous. Alors c'est vrai qu'on parle de Tenet, hein, de Christopher Nolan, qui est daté au 31 juillet. On ne sait pas trop pour Mulan encore, même si il est daté, hein, le gros film, la grosse sortie Disney.
Mulan est daté au 22 juillet, Tenet est au 31. Et c'est vrai que le mois de juillet va être un peu creux en termes de grosses sorties américaines. Mais les films français sont là au rendez-vous. Les Parfums, une comédie sortie par mon confrère de Pyramide au 1er juillet. Tout simplement Noir, sorti par Gaumont au 8 juillet. Le film de François Ozon au 15 juillet. Enfin voilà, les films français sont là. Et surtout tous les films de la diversité, c'est-à-dire tous les films de venant d'Amérique du Sud, d'Asie, ces films-là sont là aussi. Donc ça va, comme le disait Nathanaël Kermit, on va avoir une offre diverse, variée, et je pense que les cinéphiles seront ravis. Surtout que ces films-là vont bénéficier d'une exposition plus importante du fait de l'absence des blockbusters américains.
Oui, finalement, donc un mal pour un bien. Ou un bien pour un mal.
Exactement.
Alors là où il n'y a certainement pas de pénurie, en tout cas c'est dans les sorties d'albums, on va profiter d'une pause musicale pour joindre Jérôme Paillard du marché du film de Cannes. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, c'est une nouveauté avec le nouveau disque d'un chanteur qui est également comédien, d'ailleurs à l'affiche de plusieurs films à venir, c'est Benjamin Biolay et ce single au potentiel de tube, Comment est à peine.
J'ai lâché le téléphone comme ça, on se d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais je savais que j'étais fait, que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois. Parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va. De nos amis. Comment est ta peine? Est-ce qu'elle te susurre de voler de nuit? Comment va ta vie? Comment va ta vie?
La mienne comme ça, comme si.
Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ma peine? La mienne s'en vient, s'en va.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de Tous les cinémas du monde, une émission spéciale consacrée à la réouverture des salles de cinéma et impossible, on l'espère en tout cas, retour à la normale dans le secteur du 7e art. Nous sommes toujours en ligne avec Martin Provost dont le nouveau long métrage La Bonne Épouse est de nouveau à l'affiche des cinémas, Alexandre Malegui de Memento Film Distribution et William Benedetto, le directeur du cinéma L'Alhambra. Juste avant de lancer la musique, Alexandre Malegui, vous parliez de l'importance du Festival de Cannes pour les distributeurs indépendants. Alors, comme vous le disiez, le festival ne se tient pas, mais le marché, lui, se tient. Alors, est-ce que vous y participez à ce marché du film virtuel?
Oui, bien sûr, j'y participe en tant qu'acheteur. Donc, nous sommes distributeurs de films et généralement, nous achetons nos films, surtout nos films étrangers, en fait, lors de ces marchés, le marché de Cannes, le marché de Berlin ou le marché de Toronto. Et voilà, donc nous allons participer à ce marché, nous allons visionner des films. Alors, au lieu de les visionner dans une salle de cinéma à Cannes, nous allons les visionner tranquillement dans nos bureaux, sur notre canapé. Voilà, donc c'est pas la même expérience, mais voilà, on a hâte de voir ce que les vendeurs internationaux vont nous proposer comme film. On va aussi lire des scénarios comme on les lirait si on était à Cannes et essayer d'acheter des films pour les prochains mois d'activité. Ouais.
Et est-ce que, alors Martin Provost, peut-être, est-ce que la bonne épouse est sur le marché du film de Cannes, ou est-ce que déjà, enfin, la distribution à l'étranger était déjà calée avant même la tenue?
Oui, le film était déjà vendu presque partout, je crois. Maintenant, je devais partir un peu dans le monde entier. Tout a été arrêté, évidemment. Je n'ai pas eu de nouvelles de Memento International qui s'occupe des ventes à l'étranger. Je pense que tout ça aussi va redémarrer gentiment.
Avec la réouverture des frontières.
De septembre. Ouais. Oui, je pense plutôt en septembre. Oui, tout à fait.
William Benedetto, pour vous, le marché du film, c'est pas vraiment ne concerne pas forcément un exploitant de salle.
Non, nous, c'est les distributeurs qui sont à cet endroit-là, qui font ce travail-là, et nous, on est l'étape d'après, donc effectivement, le marché, non, mais le festival, c'est vrai que c'est un moment hyper important pour l'ensemble des professionnels de la filière, et pour nous, exploitants, c'est le moment où on vient pendant 10-15 jours se nourrir de tout ce qu'on va mettre à l'écran, en gros, dans l'année qui suit. Donc le fait que ce moment-là n'ait pas lieu, qu'on puisse pas se rencontrer de visu, parce que c'est très important aussi. Je dis souvent ça, le cinéma, c'est une grande famille, et je crois que c'est vrai. Et même des cinémas comme l'Alhambra, qui économiquement ne sont pas forcément les plus importants, on rencontre les distributeurs, on discute, on échange, et je crois que les distributeurs sont aussi attentifs à la diversité des salles, et même des salles qui peut-être économiquement sont moins importantes, mais symboliquement peuvent faire exister les films de façon forte, et avec toute l'attention qu'ils méritent, ils sont sensibles. Donc pour moi, c'est très important ce moment de Cannes, c'est ce moment où on célèbre le cinéma, c'est un moment où on se ressource, où on découvre. C'est vraiment la magie de redevenir un peu, nous qui sommes des professionnels, des spectateurs qui découvrons les films sans rien trop savoir dessus. Et moi, pour moi, Cannes, c'est vraiment des souvenirs de découverte de films qui m'ont durablement marqué et qui m'ont engagé aussi dans l'envie de les défendre et de le soutenir.
Oui, c'est ça. Puis on prépare aussi l'année à venir, en fait. On prépare les 12 mois à suivre.
Totalement, complètement, oui.
Je vous ai pas posé la question, mais enfin un peu à Alexandre Malégui, mais comment vous avez les uns et les autres vécu justement ces 3 mois de suspension d'un point de vue professionnel, Martin Provost? Est-ce que vous en avez, vous êtes remis au travail tout de suite?
Tout de suite. Tout de suite. Je suis rentré chez moi. J'habite à la campagne. Vous savez, le confinement pour un écrivain ou un cinéaste, c'est une chose assez normale. Je me suis confiné et je me suis mis au travail et j'ai écrit un autre scénario. Ça me paraissait en même temps important justement de ne rien lâcher au Covid et d'utiliser encore plus ce moment-là pour retravailler encore plus. Voilà.
C'est pas évident, parce que moi j'ai des différentes discussions avec d'autres créateurs qui au contraire étaient, dont la veine, on va dire, créatrice était inhibée. C'était pas votre cas.
Je pense que c'est très personnel, oui. Mais j'ai fait le choix depuis longtemps de vivre loin un peu de tout, donc je suis dans ma cambrousse, isolé, solitaire et heureux de l'être, et donc j'ai eu un rapport avec la nature absolument exceptionnel pendant ces 3 mois. Il n'y avait pas un bruit, pas beaucoup d'oiseaux, tout semblait revenir à la normale. Et s'il y a des bénéfices secondaires dans cette expérience, ça a été de retrouver un contact peut-être plus simple et plus modeste avec les choses, et du coup de me mettre au travail, de faire quelque chose de tout ça.
Et vous, William Benedetto, une salle de cinéma fermée, est-ce qu'elle est complètement hors activité, ou est-ce qu'au contraire on fait quand même un peu fonctionner les projecteurs parce que sinon ils risquent d'être détériorés?
Oui, on les a fait fonctionner une fois par semaine, mais nous, on est restés actifs. Moi, je suis venu au cinéma tous les matins, et comme on a un gros travail en partenariat avec le monde enseignant, on a été un peu interpellés par les enseignants pour assurer aussi une continuité pédagogique sur la transmission des images et du cinéma. Donc, j'ai une partie de mon équipe qui travaillait aussi avec moi. On a inventé un dispositif qui s'appelle Un jour, un cours, pour permettre aux enseignants avec leurs élèves de travailler. On s'est aussi transformé pendant un mois, le hall du cinéma s'est transformé en un atelier de confection de masques. J'ai été très actif pour relayer Marseille, et les quartiers nord ont été confrontés à une situation de crise humanitaire réelle, avec des problèmes de colis, de gens qui n'avaient plus rien à manger. Et donc on s'est aussi mobilisé sur un terrain de la solidarité, parce que nous, toute l'année, on travaille en partenariat avec des centres sociaux, avec des associations, d'être le plus en prise avec le réel possible. On ne pouvait pas faire du cinéma, on a essayé de continuer à exister autrement, dans le lien avec tous ces
partenaires de la société civile qui font beaucoup pour que la société tienne. Et pour moi, le cinéma, c'est le cinéma qu'on défend, mais c'est aussi le cinéma dans tout ce qu'il peut apporter dans la vie sociale, culturelle, économique, géographique aussi. Le cinéma, c'est un lieu, c'est un endroit où on va. Et voilà, donc du coup, on ne s'est pas vraiment arrêté, en fait. On a fait un petit peu autre chose. Et bon, voilà, donc du coup, on redémarre aussi dans une dynamique qui est, pour moi aussi, de ne pas oublier certaines réalités et de faire attention à être un peu en prise avec le réel et la façon dont la situation évolue.
Alors, vient de nous rejoindre Jérôme Paillard, un homme très occupé en ce moment, puisque le marché du film virtuel de Cannes vient de démarrer. Jérôme Paillard, donc vous êtes le directeur du marché du film de Cannes. Le festival, on l'a dit, a dû annuler sa tenue, mais le marché, lui, se tient pendant 5 jours uniquement en numérique. Alors, c'était une demande de la profession ?
Oui, écoutez, on a eu beaucoup de professionnels qui effectivement étaient extrêmement inquiets de n'avoir aucun événement avant l'été et même des doutes sur les événements après l'été. Et il y a un moment donné où même si les salles ayant ralenti leur sortie, il y avait peut-être moins besoin de s'alimenter en films, mais beaucoup de distributeurs nous disaient qu'ils avaient quand même besoin de trouver des films ou des projets pour les mois ou les années qui suivent. Les vendeurs avaient des films dont il fallait quand même qu'ils arrivent à les commercialiser. Les producteurs cherchaient ou des projets ou du financement. Et donc il y avait cette demande très forte. Et puis il y a eu quand même quelques semaines où on a pensé que le festival aurait quand même lieu en juin. Et nous, on savait qu'il faudrait que le marché soit un petit peu hybride à ce moment-là, puisque tout le monde ne viendrait pas. Donc on est passé par cette étape du hybride, et puis à un moment donné, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose pour la profession, et donc on a monté en quelques semaines, d'assez intense évidemment, une plateforme totalement nouvelle et un peu révolutionnaire, parce que ça ne s'est jamais fait, qui permet à tous les professionnels, finalement, de faire un peu comme s'ils étaient à Cannes.
Alors ça se passe comment ? Il y a des projections à jour et hors fixe ?
Écoutez, en fait, il y a un peu presque tous les ingrédients de Cannes. Il y a effectivement des projections et on a presque les mêmes chiffres qu'à Cannes. On a 1200 projections qui sont effectivement à jour et heure fixe. Alors, on s'est arrangé pour que ce soit toujours en heure locale de l'acheteur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se lever au milieu de la nuit pour voir un film. Donc, ça a été une petite...
Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans différents fuseaux horaires.
Exactement. Donc, tout ce qui est projection se passe pour chacun dans son heure locale. On a presque 10 000 participants, c'est-à-dire qu'on est presque sur les chiffres de Cannes. 2500 films ou projets qui sont proposés. 250 stands virtuels. Donc, les vendeurs ont un stand où ils présentent leurs films, où ils peuvent prendre des rendez-vous. Tout ça, évidemment, online, en vidéo. On a également les pavillons du village international, où on a une 60aine de pays qui sont là, qui font la promotion de leurs films, de leurs activités, de leur lieu de tournage, de leur commission du film, etc. Et puis, beaucoup, beaucoup aussi d'événements de networking et de conférences. On a plus de 200 événements qui vont de ce qu'on appelle à Cannes les petits déjeuners du Producers Network, mais là, parce qu'il n'y a pas le petit déjeuner, mais ça reste autour d'un invité, d'un modérateur, une vingtaine de producteurs qui peuvent échanger, beaucoup de speed meetings où on fait des rendez-vous un à un entre des compositeurs et des producteurs, ou entre des éditeurs pour des adaptations, ou des coproducteurs, il y a toute cette activité, et puis tout plein de conférences, il y a en ce moment 2 ou 3 conférences en parallèle sur différents sujets qui touchent plutôt à l'industrie, évidemment.
Et alors, est-ce que les films qui bénéficient du label Cannes, tout à l'heure Alexandre Malégui nous parlait de Un Triomphe, on peut aussi penser par exemple à Été 85 de François Ozon, enfin je ne vais pas tous les citer, mais ces films-là, du coup, ils sont particulièrement repérés ?
Alors, ils sont particulièrement repérés, ils ne sont pas tous en projection, puisqu'il y en a certains qui ont fait le choix de ne pas les montrer en ligne. C'est évidemment, l'expérience de voir un film sur un ordinateur n'a rien à voir avec celle de la salle. Pour certains vendeurs, la stratégie était plutôt de jouer encore sur l'attente, mais quand même de le commercialiser fort de ce label très important. Et puis d'autres vendeurs ont décidé juste de montrer un petit bout. D'autres ont quand même fait des projections. Alors en général, ce sont des projections sur invitation ou vraiment pour les acheteurs. Mais on a une vingtaine de films de la sélection, des sélections qui sont proposés en projection.
Donc là, en fait, le marché du film, outre l'intérêt commercial, mais c'est aussi l'intérêt artistique, c'est que vous préparez la reprise, on va dire.
Écoutez, c'était... Alors évidemment, il y a une belle coïncidence que les salles rouvrent en même temps, lundi, en même temps que l'ouverture du marché du film, enfin en tout cas en France. Et oui, bien sûr que ça redonne aussi, je pense, de l'optimisme. Et on reçoit beaucoup de témoignages, je dois dire que ça nous fait vraiment plaisir. En ce moment, tous les jours, il y a des dizaines de gens qui nous écrivent pour nous dire, écoutez, c'est formidable parce que finalement, d'abord, un, je me sens un petit peu à Cannes, et puis finalement, le timing est très bon. Et c'est vrai que ce côté ambiance aussi, finalement, marche pas mal. On s'aperçoit, par exemple, on a la presse professionnelle fait des quotidiens comme à Cannes, et sur le site, il y a un press rack, et quand vous voyez Screen des tout, Variety des tout, etc., le film français, bah, évidemment, on se dirait, bah, on est vraiment à Cannes. C'est comme quand on arrive dans le hall de l'hôtel, et il y a les délits qui sont sur la table. Et puis, il y a aussi, on propose un petit peu des événements un peu plus festifs. On a des concerts. Hier soir, on avait un concert de Marc Hirschheim, donc des compositeurs de musique de film, qui tous les soirs font un petit concert d'une heure. Donc on propose aussi un peu des activités qui permettent vraiment de se sentir aussi proche que possible de ce que l'on vit à Cannes.
Et est-ce que ça peut du coup ouvrir des pistes peut-être pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des acheteurs qui n'étaient pas là forcément les autres années, qui ne pouvaient pas se déplacer à Cannes parce que c'est un coût et qui participent au marché virtuel?
Alors on le voit un petit peu sur les distributeurs, pas tellement parce que vraiment les distributeurs viennent vraiment presque tous à Cannes, mais c'est vrai, un petit peu d'Amérique latine ou d'Asie. On le voit beaucoup plus sur certaines plateformes VOD. Les petites plateformes VOD ne viennent pas forcément toutes, ou les grosses plateformes n'envoient pas 20, enfin s'ils envoient 20 personnes, en l'occurrence Netflix, enfin ils n'envoient pas 100 personnes. Donc c'est vrai que du coup, ça leur permet d'avoir des gens qui d'habitude ne voyagent pas. Et puis c'est beaucoup sur les producteurs. Vous savez, le marché du film, en réalité, aujourd'hui, il y a plus de producteurs accrédités au marché du film que de vendeurs et de distributeurs. Hein. Il y a vraiment deux visages. Les producteurs, là, beaucoup plus de producteurs qui ne venaient pas ou rarement à Cannes, là, sont présents cette année, pour justement trouver des partenaires, trouver des vendeurs pour leurs films, trouver des festivals. Il y a beaucoup de rencontres aussi avec les programmateurs de festivals. Voilà, donc ça a été effectivement l'occasion d'amener des gens en plus. Alors, bien sûr qu'on espère ne jamais revivre ce qu'on a vécu cette année, mais sûrement, à l'avenir, il y a un modèle un peu hybride, comme ce qu'on avait imaginé pour cette année, qui sera intéressant, et de donner la possibilité, toujours évidemment en privilégiant la possibilité de venir à Cannes, mais donner la possibilité à des gens qui ne peuvent pas voyager ou qui, aussi pour des questions environnementales, qui est un vrai sujet qui va être de plus en plus, se disent ben, « je ne vais pas aller à Cannes tous les ans », eh bien voilà, il faut peut-être qu'on l'admette et que dans notre modèle, on réfléchisse à la manière néanmoins de permettre à ces gens de faire le business dont ils ont besoin.
De préparer l'avenir. De votre côté, Alexandre Malégui, est-ce que justement toute cette crise de cette épreuve, de ces gros coups durs, et bon là on espère vraiment tirer d'affaire, notamment par la belle reprise de la Bonne Épouse, est-ce qu'il y a des choses positives à conserver, des nouvelles pratiques peut-être à adopter?
Je ne suis pas sûr. J'essaie de trouver.
Là, c'est plutôt l'épreuve.
Ces trois mois de privation ont peut-être, comme le disait Martin, suscité un vif désir de cinéma. Et je pense qu'en réalisant que c'est quelque chose qui nous manque, je pense que ça peut renforcer ce désir de cinéma et qu'on peut en ressortir effectivement un peu plus fort. Ouais.
Et puis voilà, on ne sait pas encore après la suite des événements, je pense, en termes de festivals. Hein, Jérôme Paillard, vous parliez des programmateurs de festivals. On ne sait pas encore trop comment va se configurer la rentrée. On a des possibilités peut-être du festival de Venise, je ne sais pas trop pour Toronto. Ça reste encore un peu flou.
Oui, Venise va quand même être fortement impactée avec un nombre de films limités et des talents, enfin des équipes de films plus réduites ou même quasi inexistantes. Et quant à Toronto, on se dirige aussi vers un festival en partie numérique, donc la situation ne s'arrangera, je pense, qu'en début 2021 pour les festivals de Sundance et Berlin. Mais avant cela, je doute que ce soit vraiment des festivals comme on en a connu.
Un retour à la normale. En tout cas, d'ici là, on pourra se rendre en salle et notamment à l'Alhambra, à Marseille. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci William Benedetto, Jérôme Paillard, Martin Provost et Alexandre Malégui. Je rappelle donc La Bonne Épouse à l'affiche de 1000 écrans en France. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin. À la réalisation, Jérémy Besset. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission consacrée au cinéma américain des années Reagan. D'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.